Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
On a parlé de révolution en compagnie de Camille Magnard pour évoquer ce qui est en train de se dérouler notamment au Soudan. Il y a aussi d'autres révolutions, des révolutions sociétales, des révolutions historiques. Pour en parler, je suis en compagnie d'un grand historien français, Jean-Pierre Rioux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'histoire contemporaine de la France, notamment de son histoire politique, culturelle et sociale. Vous vous penchez dans votre dernier livre sur les villages français, et à la faveur de la crise des Gilets jaunes, se fait jour l'idée de fracture territoriale entre la France des villes, la France rurale. J'aurais aimé avoir votre point de vue sur cette fracture. S'est-elle agrandie, résorbée? Bref, qu'est-ce que l'historien peut nous dire de cette fracture?
C'est effectivement un moment de basculement. Jusqu'ici, les campagnes se déversaient vers les villes. Ça s'appelait l'exode rural, la recherche du travail en ville, etc. Et on assiste aujourd'hui, on y reviendra peut-être plus tard, on assiste au phénomène inverse. Quantité d'urbains, de gens des villes, disent que peut-être, au fond, leur vie serait plus droite, mieux assise, plus intéressante, s'ils étaient un peu plus au vert. Et ça, tous les sondages d'opinion depuis 20 ou 30 ans sont très clairs. C'est quelque chose qui passe dans la tête d'à peu près 80% des urbains. Actuellement, quelle que soit la véracité de la statistique, on dit à la louche qu'il y a à peu près 8 millions d'urbains qui tiennent ce raisonnement. Alors, ça a donné ce qu'on appelle le périurbain. Mais ça donne aujourd'hui, et c'est quelque chose qui, pour ma part, m'intéresse beaucoup, ça donne les processus de rurbanisation, n'est-ce pas? Lorsque la ville, en sens inverse, se déverse un peu plus sur les villages. C'est un peu ça que je veux étudier dans ce livre.
L'exode rural, Jean-Pierre Rioux, oui, était un exode économique, évidemment. Est-ce que nos ancêtres, les Français, enfin les Gaulois qui quittaient les villages, est-ce qu'ils le faisaient uniquement pour des raisons économiques, avec en quelque sorte de la nostalgie pour ces lieux qu'ils abandonnaient, ou bien étaient-ils heureux d'aller en ville?
Oui, ça, j'essaie de le montrer assez précisément, notamment à travers les exodes ruraux les plus caractéristiques peut-être, à savoir, je dirais, les Auvergnats et les Bretons, pour dire vite, mais on pourrait parler des Corses et de quelques autres provinciaux. C'est vendre ses bras, bien entendu. C'est parce qu'on ne peut plus, on ne peut plus subsister correctement sur place, que où il y a un trop plein d'enfants, etc. Les héritages sont mal partagés, la terre manque, etc. Et donc il y a notamment des plus jeunes qui doivent s'exiler. Mais il y a eu aussi constamment l'attrait de la ville. L'attrait, je dirais, culturel, le type de vie urbain qui a très souvent fasciné. N'allons pas croire que un village, c'est un espèce d'isola. Nous avons tous en tête, mais c'est faux, nous avons tous en tête Petit Bonhomme, dans Astérix, un lieu entouré d'une palissade où on se réunit entre soi le soir pour manger du sanglier rôti, les cochons qui naviguent partout à côté, et puis au besoin on prend un peu de potion magique pour se défendre contre l'envahisseur, l'ennemi, etc. C'est pas ça du tout un village. Un village, c'est plus qu'on ne croit, plus que nous en avons d'idées dans nos têtes, dans nos représentations, dans nos mentalités. Un village, c'est un bourg. C'est un chef-lieu pour les hameaux ou les fermes environnantes. C'est sur un terroir, le lieu central d'un terroir. Bon. Et puis c'est toujours un au-delà. C'est toujours un au-delà parce que il y a sans cesse du mouvement. Avec quel soin dans ce pays on a soigné les chemins vicinaux? Avec quelle obsession on a cherché toujours la grande route qui va bien carrossé, bien carrossable, qui va vous amener vers la ville, quelle qu'elle soit, voisine. Donc le vigalage a toujours été un échange. Il fallait toujours des artisans, il fallait toujours des commerçants. Il n'y avait pas que des paysans là-dedans, repliés sur eux-mêmes. Et c'est ce mouvement-là, j'ose pas dire dialectique, mais ce mouvement-là, plus ou moins intense selon les régions, selon les villages eux-mêmes, qui fait, je dirais, l'espèce de capacité historique du mot village à montrer et expliquer beaucoup de choses sur notre destinée nationale.
Mais alors finalement, la grande nouveauté, Jean-Pierre Rioux, c'est l'existence de ces zones périurbaines, c'est le rurbain.
Alors, c'est très compliqué parce que le périurbain, effectivement, c'est à peu près presque 16 millions de Françaises et de Français. C'est la ville qui coule au-delà de ses banlieues, hein, tout simplement, et qui, pour des raisons qui sont d'abord des raisons de logement, hein, le périurbain va avec le désir du pavillon, hein, finalement. Et ça n'est plus la banlieue pavillonnaire des années 30 ou même 50, c'est l'installation dans des pavillons standards, n'est-ce pas, avec le garage en sous-sol, la butte herbagée, l'arrière un petit peu légumes et le devant un petit peu fleurs, n'est-ce pas? Bon, qui fait que pour des raisons de logement, le périurbain s'est installé. La nouveauté, je le répète, c'est probablement que le désir d'installation est plus fort dans la longue durée, n'est-ce pas ? Et qu'il y a un souci, encore timide, n'est-ce pas, de mixage, de mélange avec les derniers agriculteurs, avec les retraités, avec... Bon, il y a une rurbanité qui est en train de se constituer.
Et ça, donc c'est effectivement quelque chose de nouveau. Vous avez prononcé un mot extrêmement important, le logement. D'où une question. Aujourd'hui, on voit bien que la France entière est finalement dessinée par des stratégies d'acquisition immobilière, du fait donc de pouvoir habiter dans des lieux où l'on souhaite habiter au mieux de ce que nous permettent nos moyens respectifs. Jadis, qu'est-ce qui se passait par rapport à cela ? La ville semblait plus mixte, il y avait infiniment moins de questions posées à ce sujet. Comment expliquer cela, Jean-Pierre Rioux ?
Il y a eu un zonage urbain du XXe siècle qui fait que une gentrification, c'est vrai que les classes moyennes les plus ascendantes ont pris possession des centres-villes, celles qui en avaient les moyens, et les classes moyennes, je dirais, un peu descendantes ou en difficulté, elles pouvaient participer du périurbain. Reste quand même ce phénomène majeur, c'est que, au fond, l'appartement en ville, quelle que soit la situation, centre-ville ou hors du centre-ville, n'est pas, je dirais, le rêve, l'espoir constant des Françaises et des Français. Hein. L'habitat pavillonnaire, le pavillon où la famille se rassemble, reste, je dirais, le grand rêve pour deux ménages sur trois. Et là, on retrouve une espèce d'atavisme, hein, qui était le prof du village depuis, je dirais, le Moyen-Âge. L'idée que un village, c'est un monde où les cellules familiales élargies, et pas seulement la famille nucléaire, papa, maman et les enfants, mais où on peut rendre service autour, où on peut faire venir d'autres gens. La famille élargie, l'oustal, on disait, n'est-ce pas, en Languedoc, là, c'est là le foyer vivant. Et donc un village, c'est une cohabitation entre des oustols et des clans, finalement, aussi, de cousinage, où on accueillit ou on n'accueillait pas, où on élargissait, où les générations étaient mêlées. Et là, c'est quelque chose qui est resté, je dirais, l'idée que la maison familiale, où l'entraide est possible, reste quand même un grand rêve historique français.
Mais alors, justement, dans Nos villages, le livre que vous publiez, Jean-Pierre Rioux, chez Talendier, on voit qu'il y a deux mouvements concomitants. Jadis, dans les villages, il y avait différentes classes sociales qui coexistaient. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une homogénéisation, plutôt une homogénéisation vers le bas. Et dans les villages restent principalement des revenus moyens, disons, tandis que dans les villes, il y a au contraire un mouvement inverse, c'est-à-dire que cette mixité, elle est de moins en moins importante et les villes sont désormais plutôt occupées par des classes supérieures. C'est une nouvelle France qui se dessine et évidemment tout cela est porteur de nombreux bouleversements sociologiques. Quel regard portez-vous là-dessus, vous qui êtes historien, Jean-Pierre Rioux ?
Il y a effectivement ce que Jérôme Fourquet, dans son dernier livre, appellerait une archipélisation, n'est-ce pas, de cette société française. Ce qui fait que on est plutôt, y compris au village, hein, on est plutôt dans une juxtaposition, hein, une espèce de cohabitation ou de mauvaise cohabitation de milieux très différents. Et là, je reviens sur quelque chose qui est peut-être en train de naître et qui, moi, m'a beaucoup frappé et que j'essaie de dire tout au long du livre, n'est-ce pas ? Prenez les villages, et j'en étudie deux ou trois, les villages les plus déglingués, en apparence, n'est-ce pas ? Où il n'y a plus de cohésion sociale.
Lesquels, par exemple ?
Voilà. Alors, j'étudie ça à Chichery, n'est-ce pas ? Qui a été fort bien étudié par un sociologue exceptionnel, n'est-ce pas ? Qui fait Pascal Diby. Je vois ça au centre de la France.
Donc, par exemple, c'est un village de Lyon.
Oui. Au centre de la France, au centre exact géométrique de la France, à Bruère-Alichamps. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais donc il y a une superbe colonne gallo-romaine de souche, n'est-ce pas, au milieu de tout ça. C'est au sud de Bourges, n'est-ce pas, entre Bourges et... Enfin, au sud de Bourges. Et là, vous avez cette espèce de juxtaposition qui ne se mélange pas encore assez, mais qui peut-être un jour se mélangera. Alors, qu'est-ce que vous avez là-dedans ? Encore 10 à 15% d'agriculteurs. Mais enfin, ils sont plus tellement au centre du village. Mmh. Hein. Ils sont à la périphérie, là. Bon. Vous avez quantité de retraités, mmh, qui sont revenus au pays ou qui sont venus là pour des raisons d'achat d'une maison, que sais-je, mmh, ou d'installation plus commode. Vous avez quelques-uns qui sont suivis, je dirais, le grand mouvement post-mai 68, n'est-ce pas, les néo-ruraux, disons éleveurs de chèvres, ouais, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Et puis vous avez ce qu'on appelle les pendulaires, hein, ceux qui, pour les raisons de leur logement qu'on disait tout à l'heure, se sont installés à demeure, hein, et le plus souvent prennent le train quand il en reste, ou prennent surtout la voiture pour aller au travail en ville.
Et puis, vous citez un autre exemple. Alors là, c'est un village où tout sociologue a fait un pèlerinage, Plozévez, commune de Bretagne. Edgar Morin a consacré une merveilleuse étude à cette commune. Vous revenez sur ce village, dans Nos villages, votre ouvrage chez Taillandier. Et on va écouter justement des conversations de ces villageois, Plozévez, commune de Bretagne.
Il y a quand même de grosses erreurs. Par exemple, M. Morin dépeignant le cimetière et disant que la seule tombe au cimetière n'ayant pas de croix, c'était celle du docteur Sartre. Il y en a d'autres. Il y a la tombe de mon mari à côté qui n'a pas de croix. Et bien d'autres encore.
Et déjà, ils nous traitaient de bolcheviques. Quoi, nous sommes plus bolcheviques que les autres, nous. parce que nous sommes dans un pays ici que...
Quoi, on est tous communistes, quoi, presque tous, au moins. Quoi.
Il a donné une image de Plozévez assez exacte, mais il n'avait pas raconté ce qu'il a raconté, puisque les gens ont cru que c'était la suite toujours de l'enquête faite par le Musée de l'Homme. Alors, ce n'était pas le cas. Alors, il prétendait venir à Plozévez pour le CNRS, mais ce qui n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'il en a fait un roman. C'est peut-être pas un roman, moi.
Pas tout à fait
un roman. Ouais. Pour pas mal de personnes considérées comme un roman.
Quand il s'agissait de rapports directs entre les chercheurs et les enquêtés, la langue, c'était le français. Mmh. Lorsqu'il y avait un refus plus ou moins direct de répondre, il passait à la langue bretonne. Et la langue bretonne a véhiculé tout ce que cela pouvait avoir d'ironie et qu'évidemment les chercheurs n'ont pas pu apprécier.
Un reportage sur Plozévez, cette commune de Bretagne qu'Edgar Morin a étudié. Le reportage a été fait en 1973, soit plus de 20 ans après donc les premiers travaux sur Plozévez. Jean-Pierre Rioux, Plozévez, c'est la manière dont finalement un village breton reçoit la modernité. Et aujourd'hui, rétrospectivement, on a l'impression de découvrir une France très éloignée de nos modes de vie.
Oui, Plozévez est l'exemple type, puisque ça a été une des plus grosses actions thématiques programmées du CNRS dans les années 50 et 60. Et ça a été l'exemple phare. Et là, l'interview est très intéressante, les quelques propos qu'on vient d'entendre, parce que les collectivités rurales à Plozévez ou ailleurs qui ont vu se débouler, n'est-ce pas, de chercheurs de sciences sociales, n'est-ce pas, pratiquement partout, les indigènes, si je puis dire, ont récusé, hein, et je dis pas qu'ils ont lapidé, mais ils ont eu des réflexes. Ils ont dit: pourquoi bousculons-nous notre intimité parce que nous ne sommes pas des indigènes, n'est-ce pas? Bon, voilà. Mais cette sociologie-là, cette anthropologie-là, cette ethnologie-là a révélé beaucoup de choses. Et notamment, alors puisque c'était la chasse à la modernité au moment où la France, le pays dans les Trente Glorieuses, se lançait aussi dans la croissance, le développement, l'aménagement du territoire, la modernisation technologique des choses. Ce que montre bien Morin et André Burguère, qui a complété le récit de cette énorme enquête sur ce Sud Finistère, qui n'est plus tout à fait maritime, qui n'est plus totalement agricole, qui n'est plus totalement dominé par Quimper. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? La modernité, c'est au fond la civilisation urbaine qui arrive. Et plus que ce que Morin montre très bien, c'est que au fond, c'est pas la paysannerie locale qui a entraîné la modernisation. On y reviendra peut-être dans la suite de l'émission. Et au contraire, c'est le mimétisme urbain qui a entraîné la modernisation agricole.
Notre invité Jean-Pierre Rioux, le grand historien, vient de publier « Nos villages au cœur de l'histoire des Français » aux éditions Talendier. Il est question de l'évolution de la France rurale, cette France rurale qui a notamment été au cœur de la crise des gilets jaunes, et nous recevons par ailleurs un gilet jaunologue. C'est compliqué à dire, Vincent Jaousseau. Oui, je sais, vous êtes photographe.
Je suis pas l'auteur de cette définition.
Et d'ailleurs, non, c'est moi qui vous colle cette étiquette et je vais la justifier. Vous venez de publier Les racines de la colère, 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche, aux éditions des Arènes. C'est un roman photo. Vous avez passé 2 ans dans la ville de Denain, qui est l'une des villes les plus pauvres de France. Et j'aimerais justement, vous qui avez étudié, qui avez photographié cette population, une population qui est, peut-on dire, là aussi au cœur de cette crise des gilets jaunes, par rapport à ce que vient de dire Stéphane Robert sur la manière dont le discours d'Emmanuel Macron pourrait mettre un terme apaisé, je ne sais pas quel verbe employer, en tout cas on voit bien qu'il s'agit d'une tentative de réponse à cette crise-là. Votre regard?
Écoutez, moi tout d'abord, je ne pense pas que les annonces de ce soir vont refermer quelques chapitres que ce soit. On l'a dit, il y a beaucoup d'agitation et beaucoup de communication autour de ces annonces. Mais effectivement, on revient finalement à la case départ, à cette case départ d'une verticalité de la prise de décision. Et ce qu'a exprimé ce mouvement, au-delà des revendications sur les questions sociales, c'est un fort désir de prendre part au débat et d'exister dans le débat public. Alors, il se trouve que dans ce travail documentaire que j'ai mené à Denain depuis l'élection présidentielle, j'avais pas choisi cette ville par hasard. C'était pendant la campagne présidentielle. Et justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était...
Pourquoi l'avez-vous choisi?
Je l'avais choisi parce qu'il y avait véritablement une distorsion extrêmement forte entre le discours incarné par le futur président, le candidat Emmanuel Macron, les valeurs qu'il pouvait incarner, le récit national qui était assez étriqué finalement, qui se résumait à la sorte de start-up nation d'un nouveau monde dans lequel ses habitants, les habitants de Denain, de ce bassin et plus généralement des classes populaires ne se reconnaissaient pas dans ce discours. Et moi, il me paraissait intéressant de porter, tendre l'oreille, d'écouter les paroles de ses habitants, notamment sous le prisme des mobilités, qui est le sujet que j'ai choisi d'étudier pendant ces 2 ans. Pourquoi les mobilités ? Parce que c'était un thème extrêmement fort de la campagne d'Emmanuel Macron, qui avait une charge injonctive extrêmement forte, une forme d'injonction morale qui est propre au libéralisme économique, qui consiste à dire si vous êtes pauvre, c'est quelque part de votre faute, c'est parce que vous ne voulez pas bouger.
Et puis, vous avez photographié le rapport, notamment, pas uniquement, mais beaucoup à la voiture, parce que la voiture est un objet qui, j'allais dire, n'existe pas pour beaucoup d'habitants des grandes villes. Mmh. Disons que beaucoup d'habitants des grandes villes n'en ont pas. Du coup, ils ne savent pas ce qu'est ce rapport étrange qu'on peut entretenir avec une voiture. Vous l'avez photographié.
Oui, alors, effectivement, j'ai travaillé avec un laboratoire de recherche qui s'appelle le Forum Vie Mobile. Et effectivement, je me suis intéressé au déplacement. Et c'est vrai que la voiture sur ce type de territoire qui est ni rural, ni urbain, c'est un peu le bassin minier, ce sont des grappes de villes, où on est un peu entre les deux, et c'est ça qui est assez intéressant, et ça fait partie, je dirais, des zones grises qui sont assez peu étudiées. La voiture est centrale pour pouvoir se déplacer, et notamment aussi par rapport à l'évolution du travail. On est passé d'une ville de production, où c'était Usinor et la sidérurgie qui structuraient le travail, à, je dirais, une précarisation du travail qui fait que on est sur des multi-situations finalement des salariés, qui fait que les transports publics sont souvent peu adaptés, et la voiture est centrale pour pouvoir accéder à l'emploi et est aussi un objet de reconnaissance sociale, y compris pour ceux qui ne travaillent pas.
Jean-Pierre Rioux, tout d'abord sur la manière dont Emmanuel Macron pourrait répondre ou pas à ces demandes diverses qui se sont faites entendre depuis le début de la crise des Gilets jaunes, vous qui êtes spécialiste de l'histoire politique, culturelle et sociale de la France.
Oui, répondre, oui, bien sûr, après avoir écouté, mais aussi fait beaucoup de soliloques, si je comprends bien. Et vous venez de le rappeler.
Vincent Jarousseau.
Je reviens plutôt à la question de départ. Que va-t-il faire pour les territoires ? C'est une question pendante, là, depuis... Voilà, le quinquennat, première année, a ignoré la question des territoires. Et s'est mis, je dirais, les collectivités territoriales vraiment à dos. D'entrée de jeu, il a fallu ramer beaucoup pour retrouver le contact avec les dites collectivités, les maires, et si possible, les maires ruraux. Bon, très bien. Parce qu'au fond, on partait des Gilets jaunes tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont ruraux ? Moi, je ne le crois pas tellement. En ce sens que, à Denain, je comprends très bien qu'il y en ait beaucoup, parce que là, on a à la fois les phénomènes de banlieue compliqués, un tissu industriel en déshérence, qui fait que ce mélange-là est assez explosif. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que même dans les zones rurales, les Gilets jaunes ont été, au point de départ, une expérience de non-lieu, n'est-ce pas ? C'est des surfaces ou urbains, c'est des surfaces de parking, c'est des ronds-points, etc. Et que progressivement, le mouvement prenant force peut-être, et en tout cas tardant à préciser vraiment des objectifs très concrets, en partant, je dirais, du prix du diesel au départ, on arrive à autre chose, et ça a été, je dirais, le refus, je dirais, du centre-ville et notamment du centre de grande métropole, n'est-ce pas, qui est devenu le lieu privilégié et la source potentielle de pouvoir. Donc, d'escalade, on passe du rond-point aux Champs-Élysées, n'est-ce pas, tout en peut-être sans affiner la revendication. Et là, c'est cette question des territoires que, je pense, Emmanuel Macron a géré désormais de manière plus forte que concrète. Pourquoi ce pays, depuis 40 ans, s'est offert, je dirais, des politiques de la ville relativement dispendieuse quand même, et à effet qu'on peut discuter, et n'a jamais eu de vraie politique des territoires. Pourquoi ce pays reste avec 36 000 communes, même si l'intercommunalité progresse fortement, etc., etc. Voilà.
Cela, c'est une question qui se pose à l'échelle notamment de la France rurale. À Denain, les choses sont complètement différentes, d'autant que vous, Vincent Jarousseau, vous n'êtes pas historien, vous êtes photographe, et vous avez photographié en quelque sorte à hauteur d'homme les questions qui se posent à Denain. Ce mode de vie, qu'est-ce qu'il a de caractéristique, si vous vouliez avoir cette fois-ci un objectif photographique et anthropologique, comment vous décririez ces personnes que vous avez photographiées?
Oui, alors le livre, ce sont vraiment des récits de famille que je n'ai pas choisis par hasard, hein, puisqu'il y a à la fois des personnes qui travaillent et des personnes qui ne travaillent pas, et des personnes qui sont un peu entre les deux. Et effectivement, j'ai vraiment voulu rentrer dans l'intimité de ces familles pour comprendre et donner à comprendre sur ces fameuses fractures, puisqu'elles existent aussi avec cette France, on va dire, qui n'est ni rurale ni urbaine, qui est plutôt en déprise, hein, puisqu'on est dans une France complètement désindustrialisée, où il y a quand même des problématiques assez communes avec la France des villages. Et si on veut parler d'aspiration, ce qui est extrêmement fort, pour reprendre la question de la mobilité, c'est que cette injonction qui vient du haut, finalement, qui est portée par les urbains d'une certaine manière, elle n'est pas forcément revendiquée par les classes populaires, et notamment sur ces territoires qui finalement où les personnes finalement préfèrent se recentrer sur leur quartier, sur leur voisinage, sur leur famille, pour quelque part construire des contre-sociétés qui sont d'une certaine manière protectrices, qui sont des formes de protection pour faire face, je dirais, aux difficultés de la vie.
Alors, parmi les personnes que vous avez photographiées, vous avez par exemple photographié Guillaume et Aline. Guillaume a 44 ans, Aline 40 ans, ils ont 4 enfants. Aline et Guillaume ont toujours vécu à Denain, qu'ils ne quittent que très rarement, à l'exception d'éphémères contrats d'intérim et autres emplois aidés. Guillaume, comme Aline, ne travaille pas, et vous montrez finalement que ce couple cherche à travailler, c'est-à-dire qu'il traverse beaucoup la rue, pour utiliser une expression. On ne peut pas dire que le fait qu'ils soient aujourd'hui dans une grande précarité tient ou bien à leur paresse ou bien à leur inaction par rapport au phénomène du chômage.
Oui, on a beaucoup individualisé les rapports sociaux depuis quelques décennies. Et je dirais que ce mouvement s'est accéléré dans ce présent quinquennat. Et ce que je montre dans ce livre, effectivement, ce sont des personnes qui, même si elles ne travaillent pas, pour un certain nombre d'entre elles, il faut quand même rappeler que le taux de chômage à Denain est de 35%, le taux de pauvreté est de 45%, même si elles ne travaillent pas, elles cherchent quand même à trouver des solutions. Alors ça, c'est parfois des coups de main, des petits boulots, mais elles cherchent à essayer de s'en sortir comme elles peuvent. C'est une réalité qui est souvent finalement ignorée et parfois dénoncée. On peut reprendre les déclarations du président au début du quinquennat sur effectivement les chômeurs qui ne traverseraient pas la rue pour trouver du travail, mais finalement c'est beaucoup plus compliqué que cela.
Justement, ça c'est une évolution, Jean-Pierre Rioux, vu qu'il est un observateur attentif de la société et de l'histoire française, l'idée qu'un président puisse donner l'impression, je ne dis pas nécessairement que c'est la réalité, mais en tout cas, c'est l'impression qui a été donnée que finalement, celui-ci ne s'intéressait qu'à une France qui était une France victorieuse, qui n'avait pas véritablement de difficultés dans la vie, et qu'il y avait finalement toujours une possibilité de s'en sortir pourvu qu'on ait la volonté de le faire. Si on inscrit ça dans la tradition politique française, que diriez-vous justement de ces différentes déclarations?
Bah, effectivement, c'est dans le droit fil, à la fois de la puissance, hein, manifester que ce pays encore peut tenir un discours européen, mondial, diplomatique, que sais-je, manifestant une puissance préservée. Hein. C'est un discours aussi qui est présidentiel, attention, hein, qui fait que, avec tout antécédent gaullien ou gaulliste que l'on veut au point de départ, il y a quelque chose qui tient, je dirais, à la à l'ossification présidentielle du régime de la Ve République, n'est-ce pas, aggravée par le quinquennat, qui fait que le plus grand nombre de choses, quantité de choses qu'on n'avait absolument pas imaginées en 1958, aujourd'hui transitent par le président, voire même transitent par tel conseiller à l'Élysée, hein, et non plus par le ministère ou par Matignon concerné. Bon, alors ça, ce sont des évolutions qui poussent immanquablement, et quel que soit le président, je dirais, à oublier nos territoires, hein. À oublier à la fois les communes rurales, les intercommunalités et les villes comme Denain où la pauvreté s'est étalée.
Vincent Jarousseau, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais extrêmement simplement, ce que les gilets jaunes ont exprimé, mais ça a été dit et redit, et j'ai pas l'impression que ce message soit entendu, c'est qu'il y a d'abord un besoin de reconnaissance qui s'exprime. Et au-delà des revendications portées, notamment par l'Assemblée des Assemblées, on les a assez peu écoutées finalement, il y a une volonté vraiment de prendre part au débat public, et quelque part à se retrouver, à fraterniser sur les ronds-points. Moi, ce que j'ai constaté sur les ronds-points à proximité de Denain, puisque c'est là que je suis allé en novembre-décembre, je fais des similitudes avec ce que j'ai vu pendant la Coupe du Monde. Ça peut paraître un peu étonnant comme comparaison, mais il se trouve que dans les grandes villes, et à Paris en particulier, pendant la Coupe du Monde, il ne se passait rien au moment des matchs de l'équipe de France. Et dans les petites villes, dont Denain, dès qu'il y avait un match de l'équipe de France, c'était l'occasion d'une fête où les gens se retrouvaient après les matchs et paradaient dans la ville. Et on observait finalement la même chose au moment du mouvement des Gilets jaunes. C'est même ces mêmes différences. Il y a un besoin de fraternisation, de se retrouver ensemble, comme quelque part, comme si les personnes avaient été un peu isolées dans leur coin pendant des années. Il y a ce besoin de dignité qui s'exprime extrêmement fortement, je trouve, dans...
Il y a effectivement un besoin de dignité, de reconnaissance, mais si on reprend le couple de Guillaume et Aline, ce couple-là, il n'a pas seulement besoin de reconnaissance, il a aussi besoin de travail, il a aussi besoin d'argent, et on voit en quelque sorte les difficultés dans lesquelles ils se débattent au quotidien. Là, ça n'est pas uniquement du symbole.
Bien sûr, mais de toute façon, là, ce qui est posé dans le débat, et je trouve qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant, c'est la question notamment de comment on redistribue les richesses et les prestations sociales dans ce pays.
Parce qu'elle est redistribuée dans le cas de Guillaume et Aline.
Elle existe.
Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de travail.
Mais elle enferme ces personnes aussi. C'est-à-dire que le système de prestations sociales, Guillaume l'explique très bien dans le livre, fait que, par exemple, il va refuser un CDD parce que, un, c'est trop éloigné pour lui, ça va lui coûter cher en carburant, comme il le dit. Et surtout, à l'issue du contrat, il sait qu'il ne va pas retrouver tout de suite ses prestations, puisqu'il y a toujours des délais entre le moment où on n'a plus le RSA et le moment où on le retouche. C'est-à-dire qu'il y a des ruptures dans les systèmes de redistribution des prestations sociales.
Oui, enfin, Jean-Pierre Rioux.
Redistribution, oui, et on n'est pas le pays le plus manchot, si je puis dire, en termes de redistribution. Hein, bon, hein, l'État-providence à la française, ça n'est pas rien. Hein. Encore faut-il qu'il y ait du gâteau à partager. Hein, et que, alors là, c'est tout le pari macronien, je dirais. Il faut relancer aussi l'activité économique. Alors, dans un cadre prescrit, on est bien d'accord, mais essayer de développer les capacités productives aussi. Et donc, plus les capacités productives s'étendront, plus on aura à redistribuer. C'est un raisonnement assez simple et qui n'est pas propre à Emmanuel Macron, mais qui nous régit depuis quand même un certain nombre de décennies.
Mais alors, cette question, elle ne se posait pas auparavant de cette manière-là, en tout cas, Jean-Pierre Rioux.
Oui, parce que la nouveauté, c'est à la fois la paupérisation par le bas, type Denain, que vous décrivez très bien, et puis, je dirais, la fragilisation de tout ce qu'on appelait un peu vaguement le monde moyen, les classes moyennes, hein, où l'ascension sociale est freinée, où, je dirais, les processus d'éducation et d'accès aux diplômes ont perdu de leur efficience depuis 50 ans. Et donc là, il y a effectivement les couches sociales qui assuraient, je dirais, qui lubrifiaient le dynamisme social et donc économique et de redistribution au bout du compte, là c'est grippé, n'est-ce pas, c'est bloqué.
Vincent Jarousseau, avez signé un roman photo sur Denain, l'une des villes les plus pauvres de France.
Oui, moi mon sentiment c'est que il faut pas mentir aux gens quand vous avez des territoires où vous avez des taux de chômage aussi élevés, mais c'est pas propre uniquement à Denain. Des Guillaume, des Aline ne retrouveront pas forcément des situations d'emploi durables à l'avenir. Il faut avoir, et le problème c'est que tout le discours actuel reste centré sur la productivité, la croissance et le travail. Et le problème, c'est la nature du récit que l'on propose finalement aux Français. Et c'est vrai qu'il y a un grand absent finalement des propositions qui vont être faites ce soir. C'est la question de l'enjeu climatique et comment on structure, y compris le travail, par rapport à ces enjeux. Par exemple, il existe d'autres territoires comparables à Denain, comme Loussangouel, à côté de Lens, qui est une ville qui s'est inscrite dans le mouvement des villes en transition, où on propose autre chose aux gens. Par exemple, je vais prendre l'exemple des petits jardins familiaux à Denain. Dans les Corons, vous avez des petits jardins. On le montre très bien dans le livre, en BD, quand on revient à l'époque d'usineur. On voit les ouvriers bêcher leurs jardins. Les ouvriers, dans la culture ouvrière, faisaient du jardinage. Aujourd'hui, ces jardins sont devenus les réceptacles de la surconsommation. Ce sont des dépotoirs où, finalement, on stocke des objets qui ne servent plus à rien. Et quelque part, ça symbolise finalement ce passage d'une société de production à une société de consommation où on a oublié quelque part d'être des paysans pour revenir à la culture des villages. Et quelque part, le récit à reconstruire, c'est finalement de passer d'une société qui n'est pas uniquement une société du travail.
Et lorsque vous dites qu'il ne faut pas raconter d'histoire aux gens, il y a malgré tout, si on prend toujours ce couple que vous avez photographié, Vincent Jarousseau, il y a quand même une volonté de travailler chez eux, et il y a aussi un certain nombre de savoir-faire. Guillaume raconte par exemple qu'il aime bien travailler en plein air, il aime bien jardiner, il est capable de réparer une voiture, il peut changer un moteur. Bref, il y a une possibilité pour ces gens-là de trouver du boulot.
Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends la question de la mécanique maison pour réparer les voitures, le renforcement des normes techniques pour les véhicules fait qu'un Guillaume, par exemple, ne peut plus réparer sa propre voiture et celle de ses voisins, ce qui lui retire le rôle social qu'il avait dans son quartier.
Ça, justement, c'est quelque chose qui fait assez peur, Jean-Pierre Rioux. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant qu'historien. Et on voit qu'il y a toute une partie de la population qui, aujourd'hui, du fait de l'évolution des techniques, du fait également de l'évolution des modes de vie, est de moins en moins à même de s'insérer dans l'économie. Ça n'était pas quelque chose que l'on rencontrait fréquemment auparavant. Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Non, ce qui est nouveau, c'est que, je dirais, la labellisation par le diplôme pour les enfants, n'est-ce pas ? C'est la cascade des générations aussi qui est en panne. Et d'autre part, il y a l'immensité de la révolution numérique qui fait que on ne répare plus une automobile aujourd'hui si on n'a pas quelques notions. Dès lors qu'elles sont gorgées de numérique. Et donc là, c'est une évolution. Mais je dirais l'histoire française, l'histoire de l'Europe et du monde ont connu d'autres évolutions technologiques.
Mais notre crainte, c'est que celle-ci soit
industrielle, pour ne parler d'elle, à partir du 18e siècle, a bien été un gap technologique. Hein, bon.
Vincent Jarousseau.
Mais ce que l'on ressent très fortement quand on écoute toutes ces personnes, c'est un sentiment de dépossession. À la fois du rôle de chacun dans notre monde, dans notre société. C'est vrai que ça existait à l'occasion de toute révolution technologique, mais c'est vrai que cette fois-ci, ça nourrit quand même beaucoup d'inquiétudes. Et la question, c'est comment on accompagne ce saut-là.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on se demande, Jean-Pierre Rioux, effectivement, les historiens ont connu beaucoup de choses, puisqu'il y a eu de nombreuses périodes antérieures.
On se demande si
ça n'est pas l'ultime évolution du travail, autrement dit, si là, vraiment, le fait qu'il y ait des modernisations, ça ne soit pas une manière de faire sortir définitivement des individus du système productif.
Oui, puisqu'on nous parle même d'évocation de l'intelligence artificielle demain, des robots, que sais-je, dans l'évolution du travail. Non, je pense que ce qui est plus complexe encore et plus dramatique, peut-être au fond, c'est que tout ceci, toutes ces évolutions sont beaucoup plus remises aux individus eux-mêmes, hein, ou à des cellules restreintes, n'est-ce pas, de l'entraide, etc. Alors que avant, on pouvait appeler ça communauté, classe ou autre chose. Il y avait du collectif dans tout ça. Ce qui fait que nous n'avons plus aujourd'hui beaucoup plus que de l'individuel. Voilà.
Deux regards sur la France, celui de Jean-Pierre Rioux, historien au village au cœur de l'histoire des Français chez Talendier, et celui d'un photographe, Les Racines de la Colère, 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche, Vincent Jarousseau, aux éditions des Arènes. Merci de nous avoir donné votre regard sur la France.